Luxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Luxfor, la radio partenaire du festival de cinéma Entrevue Belfort. Je suis Nicolas Bézard. Sur le plateau à mes côtés, la journaliste Oikoussofou Oglou. Et en coulisses, Olivier Legras pour la réalisation technique de cette émission. Et notre premier invité ce soir est auteur et critique de cinéma, programmateur, impliqué également dans la distribution de films. Et c'est plus spécifiquement cette casquette de programmateur qui va nous intéresser pendant cette émission. Bonsoir Émilien Gour.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Alors, dans le cadre de la 60e édition des Journées de Soleur qui se sont tenues en janvier dernier, vous aviez fait, en tant que programmateur, la part belle au massif jurassien en réunissant une trentaine de films tournés dans cet arc montagneux qui s'étend du canton de Bâle-Campagne à quelques encablures d'ici jusqu'à la frontière de l'Ain et de l'Isère. Le Jura qui fait aussi la liaison entre deux pays, la France et la Suisse, et qui a donc très tôt intéressé par cette nature frontalière, mais aussi parce qu'il est un ailleurs à portée de main, une sorte de lointain proche, une grande diversité d'artistes. Parmi eux, bien sûr, des cinéastes qui se sont plu à puiser ou à projeter dans ces paysages des imaginaires souvent très évocateurs, à inventer un monde dans ce monde de forêts, de combes et de sommets à l'identité et aux traditions par ailleurs fortement ancrées. Mais avant d'entrer avec vous, Émilien, dans le détail de cette programmation initiale qui connaît en ce moment avec la 40e édition d'entrevue une forme de prolongation, peut-être qu'on peut revenir justement sur ce partenariat noué entre Entrevue et les Journées de Soleur. Comment cette entente commune autour de la thématique jurassienne est-elle née entre les deux festivals ?
Alors, comme vous l'avez justement rappelé, la rétrospective imaginaire du Jura a été conçue dans le cadre de la 60e édition des Journées de Soleur, qui constitue la vitrine du cinéma suisse. Et pour cette édition anniversaire, cette édition un peu spéciale, on avait envie de consacrer une rétrospective non pas à une personnalité, à une figure du cinéma suisse, mais d'élargir un peu le spectre et le prisme, et de consacrer une rétrospective, de mettre à l'honneur un paysage. Et nous avons choisi le Jura pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant que justement le Jura est un territoire frontière, comme vous l'avez justement rappelé, et on trouvait intéressant de se pencher sur ce territoire qui questionne, de par sa nature frontalière, la question même d'identité nationale. Un autre aspect, c'est que l'imaginaire de la Suisse reste encore fortement lié aux représentations liées aux Alpes, et on avait envie de se tourner vers ces autres montagnes qui façonnent de manière différente un autre type de rapport à l'identité. Donc ça, c'était un peu des pistes de réflexion qui nous ont guidés, et assez rapidement on trouvait que c'était ça nous semblait assez évident de nous tourner vers le festival Entrevue, vers Belfort qui se trouve de l'autre côté du Jura. Voilà, l'autre versant du Jura sont deux festivals qui sont assez proches d'un point de vue géographique, mais entre lesquels jusqu'à présent il n'y avait pas eu de collaboration. Donc on a pris contact assez tôt avec l'équipe de Belfort, l'équipe d'Entrevue, pour imaginer s'il y avait moyen de travailler ensemble dans le cadre de cette programmation autour du Jura au cinéma.
Alors, Émilien Gour, et je m'excuse d'avoir mal prononcé votre nom dans mon introduction, ce n'est à ma connaissance pas si courant qu'un festival de cinéma justement se propose d'élever au rang de thématique un paysage déjà fortement identifié. Et il y a peut-être des pièges dans lesquels un programmateur ne doit pas tomber, et peut-être vous allez nous le dire lesquels. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que le fait de questionner les imaginaires du Jura, c'est aussi, au fond, interroger la notion même de paysage au cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, en fait, c'était aussi des pistes qui nous a guidés lors de l'élaboration et la conception de la programmation à Soleur. Les années précédentes, les rétrospectives étaient toujours consacrées à des femmes ou des hommes, cinéastes ou monteurs, monteuses. Et on s'est dit, voilà, en fait, partons de l'hypothèse que le Jura est un protagoniste de cinéma. Donc on va s'intéresser aux différents rôles qu'il a incarnés à l'écran. Et donc il y avait cet angle, ce prisme qui était de prendre acte de l'agentivité du paysage comme acteur et pas comme simple surface sur laquelle on projette des images. Et ça nous a également passablement guidé dans la sélection des films, puisqu'on a essayé de créer une programmation nouée autour de films dans lesquels les paysages du Jura jouent un rôle prépondérant, un rôle de protagoniste, pourrait-on dire.
Justement, comme vous parlez de Jura en tant que protagoniste, je pense qu'il y a un paysage qui s'évolue aussi dans le temps. Il y a un changement dans le temps aussi dans les paysages, mais comme mon collègue a évoqué le 30 ans de film qui a été présenté au Solor, il y a quand même une sorte de moins d'options de sélection, moins de nombre de films qu'on voit entrevus ici, mais qui cherchent quand même à refléter les diversités de cette représentation du paysage. Et pour ceux, celles qui ne connaissent pas bien la sélection, vous pouvez nous guider peut-être un peu comment vous, les programmateurs, ont voulu représenter cette diversité à travers les films que vous avez sélectionnés. Parce qu'on voit des films faits aussi bien par des cinéastes très connus comme Jean-François Stevenin ou Andan Tanner que des cinéastes moins connus, moins visibles dans le cadre du festival international, mais aussi en France. Donc peut-être vous pouvez nous donner un peu un panorama de la sélection et qui est les motivations justement de faire venir cette sélection aux entrevues.
Oui, alors vous le rappelez à juste titre, la programmation de Soler, elle couvrait un axe temporel assez large des années 1910 jusqu'à 2025, et elle mêlait des cinéastes amateurs, des cinéastes établis, et on trouvait intéressant d'avoir ce mélange en termes de type de production, de réalisation. Mais ce qui était l'axe peut-être le plus fondamental pour nous, c'était justement à travers la programmation de mettre en lumière peut-être trois rôles principaux du Jura au cinéma. Le premier rôle, c'est le Jura comme scène de crime. Les paysages du Jura ont nourri un imaginaire qui fait la part belle aux faits divers, à la contrebande, à des menus larcins, parfois à des crimes, cette affinité entre les paysages du Jura et ce rôle de scène de crime est bien sûr fondée sur différents types de raisons historiques. Étant un territoire frontière, le Jura se prête idéalement aux activités de contrebande, ce qui explique la prolifération d'histoires qui font du Jura une espèce d'histoire criminelle ou autre. Un autre rôle du Jura qu'on a identifié, c'est le Jura comme personnage de western. Ça c'est lié à une particularité du Jura, qui est une région assez peu densément peuplée, avec des paysages de vastes forêts, de lacs souterrains, sur lesquels on peut projeter une sorte d'image d'une nature lointaine à l'écart des grands axes urbains. Et d'ailleurs, pour parler d'un cinéaste que vous avez cité tout à l'heure, Jean-François Stevenin, qui était originaire du Jura, parlait justement du Jura comme, il disait le Jura c'est l'ambiance western, et son film à Basse-Montagne, dont vous avez eu l'occasion de parler il y a quelques jours, est dédié aux Indiens qui sont en fait les habitants et les habitantes du Jura. Ça c'est le deuxième rôle qu'on avait identifié. Le troisième, est lié en fait à une autre particularité du paysage jurassien qui est un mélange en fait de nature sauvage et aussi d'activités industrieuses, puisque le Jura, enfin c'est notamment le cas en Suisse, a servi de coulisse à la prolifération de l'industrie horlogère. Voilà, ça vient de la tradition des paysans horlogers, une tradition qui remonte au 18e siècle et qui va se développer au fil des siècles et des décennies et donner lieu à une industrie horlogère. Et donc il y a aussi toute une série de films qui prennent ce paysage assez contrasté aussi à ce niveau-là, à la fois sauvage et propice aux activités industrielles, pour développer des réflexions autour de l'entrelac entre nature et culture. Voilà, des réflexions qui nous sont toujours très contemporaines. Et un des films qui a montré à Belfort, qu'on avait eu l'occasion de présenter à Soler, qui s'inscrit tout à fait dans cette tradition-là, c'est le film Les Hommes de la Montre d'Henri Brandt, qui est une espèce de film essai sur le devenir de l'activité d'horloger à l'ère industrielle à partir de la figure d'un vieil paysan horloger dans le Val de Travers au début des années 60.
Alors, Les Hommes de la Montre, que vous avez d'ailleurs présenté hier au public lors d'un triple programme, une séance où vous montriez donc ce film de Henri Brandt avec également Feu, Fumée, Saucisse de Lucienne Lanaz et un troisième qui m'échappe, c'était
La peau dure
de Jean-Michel Barjol, exactement. Je voudrais revenir simplement sur le deuxième aspect que vous avez soulevé lorsque vous avez comme ça décrit les différentes facettes que l'on peut trouver dans ces imaginaires du Jura, et c'est celle du western. Donc, par exemple, cette américanité qu'a pu voir Jean-François Stévenin dans son paysage familier lorsqu'il a créé Passe-Montagne, lorsqu'il a réalisé Passe-Montagne. Et cette question un peu plus personnelle, c'est je crois que vous êtes né et que vous résidez en Suisse, vous pouvez me
tout
le confirmer,
à fait.
Voilà. Et donc le Jura est un monde originaire, ou à tout le moins familier pour vous, et on sait qu'il n'est pas toujours facile d'appréhender un paysage trop ordinaire, trop proche de soi au quotidien. Est-ce que par la mise à distance que permet l'objet et le dispositif cinéma, le Jura vous est apparu, vous, sous un autre jour, peut-être plus propre à vous inspirer, à vous enthousiasmer? Car finalement, j'ai l'impression que c'est dans la capacité que nous avons à pouvoir le quitter par la pensée ou par l'imagination qu'un lieu devient véritablement habitable, accueillant et montre peut-être sa pleine puissance poétique.
Oui, en ce qui concerne mon rapport personnel au Jura, avant de me lancer dans la conception de cette rétrospective, c'était toujours en fait un paysage qui m'apparaissait à la fois proche et lointain, parce qu'il borde le plateau suisse. Il marque une espèce de ligne d'horizon au-delà de laquelle on a l'impression que le monde s'achève. Donc il était à la fois toujours un peu présent en arrière-fond, en arrière-plan. Mais il signalait toujours déjà une forme d'ailleurs, en fait, pour moi. Donc c'est un paysage qui a toujours nourri d'une certaine manière mon imaginaire, mon imagination. Et justement, c'est ça aussi un des moteurs à un niveau très très personnel qui m'a conduit vers ce territoire qui est à la fois toujours présent, mais auquel on n'accorde pas une même attention en Suisse, en tout cas, qu'aux Alpes, qu'aux massifs alpins, qui, comme je le disais tout à l'heure, ont toujours un rôle prégnant dans la définition de l'identité suisse. Enfin voilà, les Alpes ont été érigées comme une sorte de symbole de vertu, avec les populations qui y vivaient comme des espèces de pâtres bienveillants, tandis que le Jura a quelque chose d'un peu plus obscur. C'est un territoire qui, outre les activités de contrebande que j'évoquais tout à l'heure, a aussi été un grand repère de penseurs anarchistes. Donc il y a ce côté un peu plus parler de underground est peut-être un peu exagéré, mais il y a un côté un peu plus en friche qui
et un peu moins archétypalement identifié, c'est dur à dire.
oui exactement, et je pense que c'est ce qui rend voilà ce paysage aussi particulièrement propice à accueillir autant d'imaginaires.
Justement, vous avez quel imaginaire, mais quand on regarde la sélection, on voit cet imaginaire provient davantage de ceux qui habitent, ceux qui investissent avec leur imaginaire, avec leur vie dans le territoire, donc les habitants, donc soit les Suisses, soit les Français, donc par une curiosité purement cinéphilique, j'aimerais savoir si on retrouve dans l'histoire du cinéma des propositions qui viennent de d'autres pays, d'autres cinémas, d'autres imaginaires qui ont investi dans le Jura. Est-ce qu'on retrouve ce type de propositions? Est-ce que vous avez tombé des films qui n'ont pas forcément tourné à Jura, mais qui imaginent Jura ou qui est peut-être tourné à Jura, mais qui n'a pas le même regard qu'un Français ou un Suisse aurait pu avoir?
Alors, un des films qu'on a montré à Soler va tout à fait dans ce sens. C'est un film de science-fiction espagnol qui a été tourné dans le Jura suisse au début des années, voilà, dans la première décennie du troisième millénaire. Et c'est un film qui se situe à La Chaux-de-Fonds. Enfin, La Chaux-de-Fonds, la ville de La Chaux-de-Fonds dans le Jura neuchâtelois a servi de décor à ce film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un film international avec un acteur allemand, un cinéaste espagnol. Mais néanmoins, le film se nourrit. Se nourrit du passé industriel du Jura. Voilà, c'est un film de science-fiction, je le disais, qui imagine un monde dans lequel des robots sont dotés de la même sensibilité que les êtres humains. Et le film est absolument pas. Enfin, à aucun moment il est signifié dans le film que l'histoire se déroule dans le Jura. C'est un lieu un peu abstrait. Néanmoins, c'est ça qui rend le film intéressant, c'est que cette abstraction, elle repose néanmoins sur une connaissance de l'histoire jurassienne, et elle se sert des paysages industriels que cette région est susceptible d'offrir à des cinéastes.
Alors la force de ce genre de programmation, c'est toujours d'exhumer des pépites, des films qui sont rares, qui ont été peu vus, et de les montrer au public qui les découvre avec surprise, étonnement et bonheur. Et moi, je trouve que c'est le cas du film Feu, fumée, saucisse de Lucien Lanaz, qui est un magnifique portrait cinématographique d'un homme qui vit donc Fritz Marti, d'un vieil homme qui réside avec ses chats dans une maison d'un coin reculé du Jura. Et il a transformé sa maison en fumoir à saucisses. Et donc il fume ses saucisses avec un savoir-faire qui est malheureusement voué à disparaître avec lui. Et je trouve que c'est un film d'une force visuelle déjà assez incroyable. Il y a une vraie matérialité de la pellicule, un travail des couleurs à la fois sourdes et en même temps assez contrastées, assez appuyées, qui m'a rappelé même de la peinture, ou en tout cas... Voilà, les arts plastiques, j'ai pensé par exemple au dessin et à la gravure de Käthe Kollwitz, voilà, l'Allemande qui a elle aussi pris ce genre de sujet, qui a dépeint cette vie modeste des gens de la campagne. J'ai pensé aussi aux premières œuvres de Van Gogh par exemple, les premiers dessins ou les premières gravures qu'il a pu réaliser en Hollande notamment, dans ce même genre de milieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film qui, je trouve, est la concrétisation d'un adage qu'on dit parfois à propos du cinéma, à savoir que le cinéma n'est jamais aussi fort que lorsqu'il filme quelque chose pour la dernière fois?
Alors oui, Feu, fumée, saucisse, il s'agit du premier film documentaire de la réalisatrice suisse Lucienne Lana, qui est une figure très importante dans l'histoire du cinéma suisse. Il s'agit véritablement d'une pionnière. C'est une des premières femmes à avoir produit et réalisé des films en Suisse. Elle s'est installée dans le Jura en 1974, dans le village de Grandval, dans le Jura bernois. Et en 1976, elle a réalisé son premier film documentaire, Feu, fumée, saucisse. Et c'est un film séminal à bien des égards, puisque depuis lors, elle n'a plus cessé de filmer cette région et les visages des habitantes et des habitants de ce val de Grand Val. Elle a aujourd'hui 88 ans et elle est toujours en activité. Son œuvre est encore en train de s'écrire. C'est une œuvre séminale par rapport au développement de sa propre filmographie. Mais je pense que c'est aussi un film très important pour au niveau de la direction de la photographie. Vous évoquiez tout à l'heure la matérialité particulière de ce film, dont la photographie est signée par Pio Corradi, qui est aussi une figure très importante du renouveau du cinéma suisse dans les années 70. C'est un chef opérateur qui par la suite a travaillé avec des cinéastes comme Freddy Mourer ou même Robert Frank. Tout un pan de sa filmographie est composé de portraits d'artistes. Et donc, ce que je trouve assez touchant dans ce film de Feu, Fumée, Saucisse de 76, c'est que c'est Lucienne Lana et Pio Corradi qui, ensemble, prennent leur marque dans cette tradition cinématographique du portrait. Comme vous le disiez justement, il filme à travers cet ancien valet de ferme Fritz Marti qui fume du saucisson dans sa maison, une tradition qui est en train de disparaître. Et là aussi, cet intérêt du cinéma pour des métiers, des traditions en voie de déliquescence, de disparition, c'est aussi un axe, une piste qu'on retrouve dans tout un pan de cette filmographie jurassienne dont on s'est familiarisé lors de l'élaboration de la rétrospective. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, la programmation donne aussi la place à des cinéastes qui font moins évidemment partie du canon cinématographique établi. Et parmi ces cinéastes qui ont été marginalisés et qui ont vraiment vécu et travaillé dans le Jura, on retrouve aussi un autre cinéaste suisse, André Parat, qui vivait à quelques dizaines de kilomètres de Lucienne Lana dans le Jura neuchâtelois, et son œuvre aussi a une valeur de chronique de la vie dans le Jura neuchâtelois des années 60-70.
On perçoit souvent le festival comme des événements ponctuels, une fois que c'est fini, comme si c'est oublié, mais j'ai l'impression que quand on voit ce lien entre Soler et Balfe, entrevue, on comprend qu'il y a en fait une postérité potentielle dans les structures même de la programmation qui peut donner une nouvelle vie à des films qui ont peu de visibilité dans l'histoire du cinéma. Souvent, avec la perfection de techniques de restauration et de conservation, il me semble qu'il y a une tendance à jamais vue de se concentrer sur le film d'héritage. Et, en tant que programmateur, je suis curieuse de savoir si le film autour de Jura a eu cette chance d'être gagné de la visibilité après avoir montré à Solor ou... Oui, plus sur, comment dire, peut-être qui, des films qui ont resté en marge de l'histoire du cinéma, qui justement, grâce à ces programmes, qui ouvrent ces films à des publics beaucoup plus divers, que ce soit professionnels ou des cinéphiles amateurs, changent la course de la vie d'un film. Est-ce que vous avez eu ce type d'occasion pour nous parler un peu?
Oui, et je pense que l'année de la rétrospective imaginaire du Jura 2025 a aussi profité d'une actualité un peu par chance, mais cette année-là, il se trouve qu'à Cannes, il y avait pas moins de deux films qui avaient été tournés dans le Jura, qui faisaient partie de la sélection cannoise, « Vingt dieux » de Louise Courvoisier, et le roman de Jim, des frères Larrieux. Il y a eu ces deux films, mais également d'autres, dans des registres plus populaires aussi, voilà, un film de Franck Dubosc, un ours dans le Jura. Et je pense que ça, cette actualité autour de ces films-là a aussi créé un terreau favorable en termes d'intérêt pour le Jura comme territoire cinématographique. Après, il est vrai, comme vous le rappelez, et on en est très content que la programmation imaginaire du Jura a circulé après la 60e édition des journées de Soleure. La programmation, enfin une partie de la programmation a été reprise dans plusieurs cinémas en Suisse, le film Podium de Zurich, le cinéma Rex de Berne, le Kinoc à Saint-Gall, les cinémas du Grütli à Genève, et maintenant voilà, Belfort avec Entrevue qui consacre sa section histoire du cinéma au Jura. Donc en effet, ça a permis cette circulation et parmi les œuvres auxquelles je pense que cette rétrospective a permis de redonner une certaine visibilité, outre les films d'André Parat dont je parlais tout à l'heure, qui ont été montrés dans plusieurs autres cinémas. Ben, je pense que le film de Lucienne Lana est un bel exemple, et je suis très très heureux que ce film traverse à nouveau les frontières.
Et alors, une dernière question, Émilien. Ce soir, vous, à 20h, vous présentez No Man's Land, le film d'Alain Tanner, grande figure du cinéma suisse, évidemment. L'auteur de La Salamandre, pour ce film, revient dans le Jura suisse après avoir fait quelques détours par d'autres paysages, notamment en Lisbonne, dans le sublime, dans la ville blanche. Est-ce que dans ce film, Alain Tanner regarde le Jura encore différemment de ce qu'il a fait précédemment, et est-ce qu'il apporte encore, enfin, est-ce qu'il révèle encore une nouvelle facette à la fois de son cinéma et de ce paysage?
Oui, c'est un film qui est très intéressant dans la filmographie d'Alain Tanner. Comme vous le soulignez, c'est vraiment ça marque le retour d'Alain Tanner en Suisse après avoir tourné deux films à l'étranger. En 78, il tourne ce film Messie d'or, qui raconte le tour de deux jeunes femmes en Suisse, et c'est un film absolument étouffant. La Suisse est vraiment présentée comme une espèce de chape de plomb pesante, et après ce film, assez logiquement, Alain Tanner, cinéaste, s'échappe de cette Suisse pour aller en Irlande avec Les Années-Lumière, Lisbonne avec Dans la ville blanche, et il revient en 85 tourner en Suisse avec No Man's Land. Et c'est un moment intéressant dans le parcours du cinéaste, parce que ça marque plusieurs retours. Un retour vers un paysage qu'il avait déjà filmé dans La Salamandre, notamment. Il y a une scène d'excursion dans le Jura, mais également dans un autre long métrage dont il a écrit le scénario avec l'écrivain John Berger, comme pour La Salamandre. Un film qui s'appelle Le Milieu du Monde, et qui est un film qui se passe à la frontière entre le Jura et le plateau suisse. Donc, aussi bien dans Le Milieu du Monde que dans No Man's Land, le Jura, quel lapsus, est présenté comme un territoire, un territoire frontière qui sépare ou qui est à la frontière entre deux territoires, deux États. Et Alain Tanner, quand il revient vers le Jura en 85, il est habité par la question de quelles histoires ce paysage peut-il accueillir, quelles histoires peut-on raconter dans ce paysage. Et il met en scène un groupe de personnages qui vivent un peu à la marge, qui se livrent. Voilà, il y a par exemple une tenancière d'un bar clandestin dans les bois. Il y a d'autres personnages qui se livrent à des activités de contrebande, mais ça, c'est une différence singulière par rapport à d'autres de ces films. Même si ces personnages vivent dans la marge, il y a plus vraiment d'espoir, d'utopie collective. Ils s'arrangent du mieux qu'ils peuvent avec leur destinée, et ça, c'est L'autre retour que fait Alain Tanner dans No Man's Land, retour vers un paysage connu, mais il reprend aussi, pour moi No Man's Land c'est une sorte de variation autour d'un motif qu'il avait exploré dans un film réalisé 10 ans auparavant, Jonas qui aura 25 ans l'an 2000, qui est un film articulé autour d'un groupe de personnages qui essayent de vivre ensemble. Voilà, ce sont des personnages de post-68ards qui sont encore animés par certaines utopies qu'ils essayent de concrétiser et d'incarner ensemble. Et No Man's Land, à cet égard, est une version assombrie, une version assez désillusionnée de ce film Jonas qu'il avait réalisé 10 ans auparavant, où les rêves et espoirs collectifs ont cédé la place à une espèce de repli individuel.
Les spectateurs d'entrevue vont pouvoir découvrir tout cela dans quelques instants, à 20h. Et Emilien, on vous souhaite une très bonne fin de festival et un bon retour vers ce Jura mystérieux et passionnant. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Emilien.
Fluxfor.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.